France Culture, il est 12h30. Tout de suite, le journal Antoine Mercier, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. L'opposition de gauche accuse Emmanuel Macron d'atteinte sans précédent à la laïcité après le souhait exprimé hier par le chef de l'État devant la conférence des évêques de France de réparer le lien abîmé entre l'Église et l'État. Analyse de Ludovic Piétenu dans un instant. Au deuxième jour des opérations d'expulsion de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, des gendarmes et aussi plusieurs manifestants blessés dans des affrontements. Une vingtaine de squats restent encore à démanteler. On retrouvera sur place Véronique Rebérotte. Le mouvement de protestation dans les universités avec plus de 400 enseignants-chercheurs qui signent une tribune pour soutenir les étudiants. On entendra l'un des signataires, Christophe Mileski, qui soutient que les universités n'ont pas les moyens matériels de faire une sélection dans l'intérêt des étudiants. À l'étranger, Français et Américains continuent de faire planer la menace d'une riposte imminente après l'attaque chimique présumée en Syrie. Emmanuel Macron, Donald Trump, entretien téléphonique la nuit dernière et souhaite donc d'une réaction ferme de la communauté internationale. Le Kremlin les accuse de refuser de regarder la réalité en face. Analyse et suivi d'Éric Biegala. Plusieurs ministres israéliens mobilisés ce matin pour défendre l'armée après la diffusion d'une vidéo qui montrait des soldats tirés sur un Palestinien non armé dans la bande de Gaza. Correspondance et récit d'Étienne Monin. Et puis le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, qui se défend devant le Congrès sur l'utilisation des données personnelles de ses abonnés. Il endosse personnellement la responsabilité des erreurs, dit-il, commises par le réseau social. Commentaire de Marie Viennot, l'invité de la séquence interview en direct de l'Assemblée tout à l'heure. Damien Adam, qui est député de La République En Marche de Seine-Maritime, rapporteur pour avis de la loi ferroviaire. On retrouvera donc M. Adam avec Annabelle Grelier à la fin de cette édition, dans la dernière partie de la Grande Table, Olivia Jesbert.
Pour un musée en Palestine, un projet pensé par l'artiste Ernest Pignon. Ernest, porté par l'Institut du Monde Arabe et défendu aujourd'hui par notre invité, l'écrivain Elias Sambar, dans un contexte de regain des violences à la frontière israélo-palestinienne. Quel sens donner à cette initiative? Nous en parlerons ensemble dans la deuxième partie de l'émission.
Très nombreuses réactions donc en France ce matin après le discours du chef de l'État. C'était hier soir devant la conférence des évêques de France. L'opposition de gauche notamment accuse Emmanuel Macron d'atteinte sans précédent à la laïcité après avoir exprimé le souhait donc de réparer, c'est son expression, le lien abîmé entre l'Église et l'État. Pour Jean-Luc Mélenchon, Macron est en plein délire métaphysique. On entend un sous-curé. Le Grand Orient de France condamne une grave atteinte à la laïcité également, une violation des principes républicains. La présidente du Front National, Marine Le Pen, accuse, elle, le président de vouloir anesthésier les catholiques pour demain et aussi s'attaquer à la loi de 1905. Réponse ce matin du porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, qui fustige ces réactions qu'il qualifie de quasi-pavloviennes d'une partie de la classe politique française. Où, dit-il en 140 signes dans un tweet, on condamne un discours de plus d'une heure. Il n'y a pas, selon M. Griveaux, le moindre doute ni le moindre fléchissement sur ce sujet de la laïcité. Donc, chez Emmanuel Macron. Bonjour, Ludovic Piétenu.
Bonjour Antoine, bonjour à tous.
On reprend tous ces éléments. D'abord, ce qu'a dit précisément hier soir devant les évêques de France, la conférence des évêques de France, le chef de l'État.
Deux passages en particulier font polémique. Premier extrait qui se situe dès le début de son discours. Pour nous retrouver ici ce soir, Monseigneur, nous avons, vous et moi, bravé les sceptiques de chaque bord. Et si nous l'avons fait, c'est sans doute que nous partageons confusément le sentiment que le lien entre l'Église et l'État s'est abîmé et qu'il nous importe, à vous comme à moi, de le réparer. Pour cela, il n'est pas d'autre moyen qu'un dialogue en vérité. Beaucoup s'interrogent alors de quel lien abîmé parle-t-il? Autre passage du discours présidentiel qui suscite des réactions, celui où il appelle les catholiques à réinvestir la scène politique, nationale comme européenne, juste après avoir expliqué, je cite, que l'Église accompagne chaque jour des familles monoparentales, homosexuelles ou ayant recours à l'avortement. Beaucoup y ont vu un appel du pied aux franges catholiques les plus conservatrices et déjà engagées politiquement. Beaucoup ont aussi crié leur colère, comme l'avocat issu des rangs du PS, Jean-Pierre Mignard, qui rappelle que le catéchisme romain est d'une homophobie à peine dissimulée et n'accorde pas la communion aux divorcés remariés. Dire comme Emmanuel Macron, l'Église est alors très risquée, pense Mignard, elle est divisée comme jamais.
Alors, protestation, je l'ai dit, à gauche. La droite et le centre oscillent entre circonspection et soutien. On fait un tour des réactions.
La gauche s'est levée comme un seul homme en République laïque. Aucune foi ne saurait s'imposer à la loi. Toute la loi de 1905, rien que la loi, a par exemple estimé le nouveau premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure. Même réaction au MRC ou chez Génération, Benoît Hamon. Pour la France insoumise, Clémentine Autain était ce matin sur France Info.
C'est un florilège, en fait, hier soir, qui foule aux pieds l'esprit de la loi de 1905. Si vous écoutez ces phrases et que vous imaginez qu'il va les répéter en allant faire la tournée des synagogues, la tournée des mosquées, on rentre dans une logique qui est une logique absolument infernale.
Dans ce discours, Emmanuel Macron explique que la laïcité n'a certainement pas pour fonction de nier le spirituel. De quoi rassurer, mais pas complètement, des personnalités de droite qui ne cachent pas leur foi, comme le président du groupe Les Républicains au Sénat, Bruno Retailleau.
S'il s'agit, si vous voulez, de marquer l'empreinte chrétienne de notre civilisation, c'est une évidence historique et culturelle. Il faut se méfier avec Emmanuel Macron parce que il offre à son interlocuteur ce que l'interlocuteur souhaite. Je l'avais entendu, le discours qu'il avait fait au moment de l'inauguration du Louvre d'Abu Dhabi, vantant la civilisation islamique. J'étais au dîner du CRIF. Il faut se méfier avec Emmanuel Macron parce que il offre à son interlocuteur ce que l'interlocuteur souhaite.
Voilà, Bruno Retailleau, encore ce matin sur France Info. Pour la droite, Antoine, le président doit encore confirmer la voie choisie. Et on le sait, parfois, les voies sont impénétrables.
Voilà, on essaie quand même de ressaisir ce débat et au total, peut-être essayer de dire simplement cette pensée complexe du président sur les rapports entre la République laïque et les religions.
Alors, vu le contexte social, certains s'amusent sur les réseaux sociaux. Emmanuel Macron va rapprocher l'Église de l'État, puis privatiser l'Église. Non, plus sérieusement, il a passé son enfance chez les jésuites, on le sait, à Amiens, à la Providence. Il croit en une forme de transcendance. Il respecte la place des religions dans la société. Et encore une fois, il l'a réaffirmé hier soir, ce principe central de la loi de 1905, la liberté de croire et de ne pas croire, sans vouloir gommer totalement ce qu'il appelle en privé une part d'irréductible. C'est là que s'introduit la dose de pensée complexe, mais aussi, Antoine, de stratégie politique. Gagner quelques points dans cet électorat catholique n'est pas une hypothèse à barrer. Faire monter la gauche, toute la gauche, sur ses ergots, comme s'il appuyait sur un bouton, alors que cette opposition est déjà mobilisée sur le front social, contre l'intervention à Notre-Dame-des-Landes ou dans les universités. Nicolas Sarkozy était un adepte de ce genre de stratégie. Cette semaine, ne cherchait plus de toute façon. Emmanuel Macron a décidé de saturer l'espace médiatique avec deux interviews télé après-demain puis dimanche soir, une stratégie qui conduit l'opposition à ne plus savoir où donner de la tête.
Merci beaucoup Ludovic Piétenu pour ces explications. Alors je ne sais pas si ça fait partie du système de saturation, mais enfin on est au deuxième jour de ces opérations d'expulsion de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Et il y a eu des gendarmes et des manifestants qui ont été blessés ce matin dans les affrontements. Depuis ce matin, des heurts violents en effet se produisent entre forces de l'ordre et les manifestants, mais aussi des zadistes et également des renforts de tous horizons qui sont venus les soutenir pour protéger de la destruction, notamment certains lieux emblématiques. Il resterait une vingtaine de squats à démanteler. Véronique Rebérotte, bonjour.
Bonjour.
Situation donc qui s'est manifestement très sensiblement tendue ce matin.
Oui, d'ailleurs, il y a d'un côté des gendarmes mobiles qui semblent avoir retenu les leçons de l'échec de l'opération d'évacuation César en 2012. La tactique et les moyens sont là, cette fois blindés, drones, équipes très mobiles et nombreuses, déluge aussi de grenades lacrymogènes et d'autres illégales, explique Kevin. Il nous montre un petit cratère au milieu d'un champ.
Et on a entendu du coup des gendarmes mobiles annoncer grenade offensive, attention grenade offensive, et juste après nous on était dans le champ et ça nous est arrivé voilà, on s'imagine ce que ça peut faire derrière un sac à dos ou sur une chaussure ou voilà, c'est tout brûlé.
Ouais, c'est interdit, ouais.
Ouais. Depuis Rémi Fraisse.
Voilà, Rémi Fraisse, militant environnementaliste tué lors d'une manifestation sur le barrage de Sivens. La riposte en tout cas déterminée des zadistes à coups de pierre, de cocktails Molotov laisse penser qu'un tel scénario est peut-être à redouter ici. Aperçu d'ailleurs tout à l'heure, selon une confrère, près d'une barricade, un manifestant courant avec un enfant dans les bras. Assurément, les gendarmes mobiles en tout cas progressent malgré les renforts arrivés chez les zadistes ici sur place. 7 blessés dans les rangs zadistes ce matin, tout près du lieu, les vrais rouge, un jardin et le lieu de vie de Camille.
plus ils continuent, plus ils sont en train de complètement exploser tout ce qui se passe ici. Ils sont en train de tout détruire. En fait, ça n'a aucun sens. Voilà, en fait, on n'a pas de place ici. Et en fait, il faudra m'expliquer aussi où est-ce qu'on a une place. Hein, si juste on doit être mort, en fait, pour pouvoir continuer à exister, quoi. Enfin, ça n'a pas de sens, quoi.
L'opération d'expulsion doit encore durer plusieurs jours, nous dit-on, côté de la préfecture. Et les renforts côté zadiste, eh bien, devraient encore s'étoffer. En tout cas, ils en sont convaincus.
Véronique Rebérotte, merci beaucoup, en direct avec Fabien Gosset à vos côtés. Le mouvement de protestation dans les universités se durcit avec certains enseignants qui prennent le relais ou qui accompagnent les étudiants et qui dénoncent aussi une sélection absurde. Il y a plus de 400 enseignants-chercheurs de toute la France qui ont signé une tribune mise en ligne par France Info. Ils affirment ainsi qu'ils soutiennent et accompagnent les étudiants dans leur contestation de la loi d'orientation et réussite des étudiants et de Parcoursup depuis le début de leur mouvement. Selon l'un des signataires, qui s'appelle Christophe Mileschi, professeur en études italiennes à l'université de Nanterre, les universités n'ont pas les moyens matériels de faire cette sélection, en tout cas de la faire dans l'intérêt des étudiants. On l'écoute.
Alors il est absurde d'une part parce que nous n'avons absolument pas les moyens de faire ce qu'on nous demande de faire, si tant est qu'on accepte de le faire, ce qui est généralement pas le cas. On n'a pas les moyens matériels. On nous a vendu ça comme une méthode de sélection dans l'intérêt des étudiants qui suppose en réalité un travail humain absolument considérable et qui en réalité va être effectué par des logiciels, par des algorithmes de sélection. On a dit la lettre de motivation, les CV permettront d'affiner, etc. On n'a absolument pas matériellement le temps d'examiner des milliers pour certaines sections, des dizaines de milliers de lettres de motivation de CV, d'aller regarder les notes en détail. Donc c'est un algorithme, c'est un logiciel d'aide à la décision qui vient du ministère, qui va en réalité opérer ses choix, si tant est que les gens acceptent de les faire, parce que vous le savez, il y a énormément d'UFR, de départements, voire d'universités tout entières qui refusent ce processus.
Ce système n'est peut-être pas parfait, mais trouvez pas que c'est mieux que le tirage au sort ?
Ah, ça c'est indubitablement préférable, mais le tirage au sort, vous savez, c'est également une communication gouvernementale. Le tirage au sort a concerné une proportion infime d'étudiants. Les chiffres que j'ai disent qu'il y a 0,45% ou 0,53%, ça dépend des sources, d'étudiants qui n'ont pas eu satisfaction au bout du tirage au sort. C'est-à-dire une poignée d'étudiants sur les centaines de milliers qui sont concernés en France. Donc, pour cette fraction infime d'étudiants qui effectivement ont été victimes du tirage au sort, on met en place un processus de sélection dont les défauts en termes d'équité et surtout dans le paradigme même de ce qu'est l'université française, dont les défauts sont évidents, patents et majeurs. Vous savez, quand il y a une telle proportion d'enseignants-chercheurs, les enseignants-chercheurs, on n'est pas traditionnellement très très politisés, hein. On n'appartient pas aux syndicats, on fait pas de politique, on fait nos recherches et on fait nos cours. Quand il y a autant de gens qui se mettent à signer des tribunes, 400 signatures, vous savez en combien de temps elles ont été recueillies? En 2 jours.
Voilà, donc c'était Christophe Mileschi qui s'exprimait ce matin au micro de Bruce Toussaint. Après l'attaque chimique présumée en Syrie, dans la région de la Ghouta, Français et Américains continuent de faire planer la menace d'une riposte imminente. Emmanuel Macron et Donald Trump réaffirment lors d'un entretien téléphonique hier soir leur souhait d'une réaction ferme de la communauté internationale. Le Kremlin, lui, accuse ce matin les États-Unis et leurs alliés de refuser de regarder la réalité en face. Et il demande qu'une enquête soit menée sur place. Éric Bégala, bonjour.
Bonjour Antoine.
Alors, les mêmes questions restent en suspens. Depuis hier, à propos de cette éventuelle intervention franco-américaine, si on comprend bien, en Syrie, quelle intervention, quand et puis aussi peut-être dans quel cadre?
On va les reprendre dans le sens inverse. Hein. Dans quel cadre une intervention? Pour le moment, il n'y a pas de cadre qui peut être raisonnable. Dessiné, et on peut supputer que le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est en réunion depuis hier, ne donnera pas mandat aux Américains, ou à quiconque d'ailleurs, pour que ceux-ci lancent une intervention punitive ou de représailles en Syrie, car c'est bien de ça qu'il s'agirait. Alors si intervention militaire, il doit y avoir, elle se fera sur la base d'une décision des chefs d'État. L'Américain, le Français et les Britanniques ont annoncé vouloir une réaction ferme suite à l'attaque chimique sur Douma. On a du mal à imaginer que ce ne pourrait être qu'une simple condamnation par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors, réponse militaire, d'accord, mais pour quand? Ça devrait être pour très bientôt, les prochaines heures peut-être. C'est en tout cas ce à quoi s'attendent les forces du régime syrien. Selon la presse de Damas ce matin, les militaires et autres formations combattantes pro-régime ont commencé à évacuer certaines bases ou points d'appui qui pourraient constituer des cibles évidentes pour les Occidentaux. Reste à envisager l'ampleur de ces représailles. Il pourrait s'agir du bombardement d'une ou de plusieurs cibles militaires ou de commandement du régime par des missiles de croisière, des armes à longue portée qui peuvent être tirées à plusieurs centaines de kilomètres à partir des destroyers lance-missiles et des sous-marins d'attaque américains croisant en Méditerranée orientale. Même une frégate française de type FREM, normalement il y en a une qui fait partie du dispositif de l'opération Chamal et qui elle aussi se trouve en Méditerranée orientale, est désormais en mesure de tirer des missiles de croisière à longue portée sur la Syrie, de même que les 12 Rafales français basés en Jordanie ou aux Émirats. Les Russes ont prévenu d'une possible escalade et d'une confrontation directe entre eux-mêmes et les Occidentaux si ces derniers devaient lancer une opération visant la Syrie. L'an dernier, Moscou avait pareillement menacé, mais n'a absolument pas réagi lorsque 59 missiles Tomahawk américains avaient bombardé la base de Shayrat en représailles de l'attaque chimique sur Khan Cheikhoun.
Merci beaucoup Eric Begala. En tout cas, la Russie, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, va déposer à l'ONU un projet de résolution qui exige donc la tenue de cette enquête qui impliquerait, selon la volonté des Russes, l'Organisation internationale des armes chimiques. Nous sommes intéressés à ce que les experts indépendants de l'OIAC, participent à cette enquête, affirme Sergueï Lavrov. Plusieurs ministres israéliens sont mobilisés depuis ce matin pour défendre l'armée israélienne après la diffusion d'une vidéo qui montrait des soldats tirer sur un Palestinien qui n'était pas armé dans la bande de Gaza et se réjouir aussi de l'avoir atteint. Une vidéo qui n'est pas datée, qui ne daterait pas de ces derniers jours et qui a d'abord été diffusée hier soir par la chaîne de télévision privée La 10 avant d'être largement reprise sur les réseaux sociaux et dans les médias israéliens, la correspondance d'Étienne Monin.
Dans cette vidéo, il y a à la fois la scène et la réaction d'un des soldats qui insulte vertement le Palestinien et qui se réjouit d'avoir fait une bonne vidéo. On ne sait pas d'où vient le film, on ne sait pas à quelle période il est tourné. L'armée a ouvert une enquête, elle estime d'ores et déjà que c'était il y a plusieurs mois. Ce que l'on voit, c'est un Palestinien apparemment désarmé, qui ne représente apparemment pas une menace. Il est arrêté à proximité de la frontière. On entend un commandant israélien donner l'ordre de tir. Le Palestinien s'effondre. On ne sait pas s'il est blessé ou tué. Cette vidéo est virale. Le ministre de l'Éducation s'en est emparé. Naftali Bennett défend les militaires. C'est-il légitime, dit-il, de juger nos soldats qui défendent nos frontières? C'est un enjeu de valeur déjà débattu en Israël. La défense des conscrits contre l'éthique militaire, la justification sans limite de la violence. Il y a 2 ans, les politiques et une part importante du pays avaient soutenu un soldat dans des conditions similaires. Cette vidéo est ressemblante, mais elle renforce encore une vision déshumanisée des Palestiniens.
Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, se défend devant le Congrès sur l'utilisation des données personnelles de ses abonnés, d'un abonné Facebook. Donc, audition très attendue aujourd'hui et demain au Congrès encore, où il devrait endosser personnellement la responsabilité des erreurs, c'est son expression, erreurs commises par le réseau social qui n'a pas su anticiper les mauvais usages de la plateforme. Les parlementaires américains seraient nombreux à se dire décidés à légiférer pour mieux encadrer Facebook et les groupes Internet. En général, Marie Vienno, bonjour.
Bonjour Antoine.
Mieux encadré, question est de savoir si un tel encadrement est possible aujourd'hui et s'il dépend des dirigeants de le faire ou si le problème est peut-être plus systémique.
Alors question de point de vue Antoine, si vous prenez Mark Zuckerberg, le PDG de Facebook, lui plaide la négligence malheureuse d'une entreprise débordée par la masse d'informations personnelles accumulées. Facebook, rappelons-le, c'est 2 milliards d'abonnés, 2 milliards d'utilisateurs, 2 milliards c'est un habitant sur 4, c'est proprement colossal. Alors devant le Congrès américain, Mark Zuckerberg va présenter son entreprise comme victime de son succès. C'est promettre de corriger le tir avec l'aide, pourquoi pas, même des politiques, s'ils souhaitent mieux réguler les entreprises technologiques. Alors, victime, Facebook, non, totalement complice. Selon le premier lanceur d'alerte sur ces sujets, Edward Snowden, lui considère, il l'a dit via Twitter, que Facebook, comme toutes les entreprises qui font de l'argent en collectant des données, sont des sociétés de surveillance maquillées en réseaux sociaux. Quels que soient les aménagements proposés, elles resteront des sociétés de surveillance. Ce qui peut d'ailleurs arranger les États comme les États-Unis que ces données intéressent, comme l'a révélé justement Edward Snowden. Alors entre ces deux extrêmes, chacun se fera une idée. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les milieux économiques et financiers n'ont pas retiré leur confiance à Facebook. Quelques investisseurs ont annoncé qu'ils avaient vendu leur participation de l'entreprise, appelé Mark Zuckerberg à la démission, mais ces retraits ne sont pas massifs, sinon l'action Facebook aurait continué de plonger. Or, ce n'est pas le cas. Elle vaut 157 dollars, 32 moins qu'avant le scandale, mais toujours 20 de plus qu'il y a un an. Incontestablement, Facebook a péché, Committee de Sin, dans le texte, explique un fonds américain, mais c'est une entreprise qui grossit bien plus vite que la moyenne et c'est attractif. Alors, est-ce toujours attractif? En revanche, pour les utilisateurs de Facebook, sont-ils ébranlés par l'incapacité de Facebook à protéger leurs données? Comment vont-ils répondre à la question que vous posez, Antoine? Eh bien, c'est encore trop tôt pour le savoir, mais c'est à eux que Mark Zuckerberg va devoir aussi s'adresser cet après-midi, car une chose est sûre dans toutes ces questions, c'est que si les utilisateurs de Facebook quittent Facebook, eh bien Facebook n'a plus aucune valeur.
Merci beaucoup Marie Viennot. Il est 1h10, c'est l'heure de la séquence interview avec comme invité Damien Adam, qui est député La République En Marche de Seine-Maritime, rapporteur pour avis de l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire et qui est interrogé en direct de l'Assemblée nationale par Annabelle Grelier. Bonjour Annabelle.
Bonjour Antoine, bonjour Damien Adam.
Bonjour.
Alors vous êtes donc député de La République En Marche de Seine-Maritime. Alors je précise pour nos auditeurs que nous devions recevoir Jean-Baptiste Djebari, le rapporteur de cette loi, mais retenu en commission avec le Premier ministre, vous l'avez remplacé, on vous a un peu extrait de cette réunion. Alors merci d'être là. Alors Édouard Philippe, qu'est-ce qu'il dit? Que dit-il? Donc on continue?
Bien sûr, on continue. Cette réforme, elle est indispensable pour l'État, les usagers et les cheminots. Donc il faut absolument qu'on fasse cette réforme et on va la faire et on continue à la faire en la menant avec de la concertation avec les syndicats pour que nous puissions avoir un projet qui soit le plus efficace, le plus pertinent pour tous les acteurs.
Alors le débat parlementaire a débuté hier. À l'extérieur, dans le pays, on ne voit pas de sortie de crise à l'horizon malgré vos efforts de pédagogie sur cette réforme. Comment expliquez-vous que les syndicats ne vous comprennent pas?
Alors, il n'y a pas que des efforts de pédagogie, il y a aussi des avancées sur le texte. Il y a de nombreux amendements qui sont portés, notamment par la majorité, qui correspondent à des amendements qui sont portés par les syndicats. On a aussi indiqué que les ordonnances seraient remplacées par des éléments qui sont mis en dur. Donc il y a des avancées de la part du gouvernement et de la part de la majorité depuis plusieurs semaines. À l'inverse, du côté des syndicats, effectivement, la situation est plus bloquée. Ils ont annoncé il y a 6 semaines une grève perlée. Cette grève perlée continue. Et c'est ce qu'on peut regretter finalement, c'est que des deux côtés, il n'y a pas de dialogue.
Il n'y a pas de dialogue, donc... Et alors, justement, comment vous comptez sortir de cet état de fait qu'il n'y a pas de dialogue?
Bah écoutez, je pense que le fait que le texte soit maintenant porté dans l'hémicycle peut permettre de mettre à plat certains thèmes qui sont problématiques pour les cheminots. Le sujet de la dette, on l'a beaucoup évoqué hier, on va continuer de l'évoquer dans les prochains jours, et l'État a toujours indiqué qu'il prendra ses responsabilités sur la dette, et ce sera le cas d'ici la fin du quinquennat, mais il faut que nous puissions mener à bien cette réforme pour que la dette puisse être reprise. Puisque si on reprend une dette mais qu'on ne fait pas la transformation de la SNCF, la dette va se reconstituer, donc on n'aura rien réglé.
Oui, c'est ça en fait, oui. L'échange que vous proposez en fait, c'est-à-dire l'État reprend la dette mais vous acceptez la réforme.
Il n'y a pas que ça, parce qu'il y a aussi des avancées sur l'ouverture à la concurrence, sur en cas de transfert d'un cheminot de la SNCF vers une autre entreprise, quelles sont les garanties qu'on lui offre. Il y a tout un tas de sujets qui font partie des éléments de négociation. Il y a aussi, on l'a mis en dur dans le texte également, que l'État ne céderait aucune part de la SNCF. Il y a aussi une inquiétude que ce soit non pas simplement une mise en société anonyme à capitaux publics, mais une privatisation. Et là, on est très clair. L'État gardera 100% du capital de la SNCF. C'est une fierté nationale de la SNCF. Et nous, on veut redorer le blason de la SNCF. On ne veut pas la privatiser.
Ouais, alors, vous dites que cette réforme est bonne pour les usagers. Mais quel est le rapport avec le statut des cheminots?
Alors, il n'y a pas vraiment de rapport direct. Ce qui est sûr, c'est que nous, on propose une réforme systémique qui va permettre simplement d'avoir plus de trains qui circulent, donc plus de concurrence entre les acteurs qui vont se battre sur plus de services avec des prix qui seront aussi peut-être plus intéressants, plus adaptés à chaque profil de client. Ensuite, on va donner aussi beaucoup plus de pouvoir aux régions. Aujourd'hui, les régions, elles n'ont qu'un seul interlocuteur, c'est la SNCF. Demain, elles pourront faire des appels d'offres où la SNCF pourra répondre et d'autres acteurs. Et ça laisse beaucoup plus de marge de manœuvre à la région de dire bah, écoutez, si vous avez un retard plus supérieur à 30 minutes, bah, vous me donnez des compensations. Et comme ça, ça évite et ça incite les acteurs à être plus pertinents. On le voit dans le secteur aérien, chaque retard coûte très cher aux compagnies aériennes et ainsi, elles évitent au maximum d'avoir des retards.
Oui, mais alors, enfin, n'y a-t-il pas quand même un petit problème de méthode hein? Attaquer billet en tête le statut des cheminots, c'est tout de même chercher le rapport de force, non?
Et on n'a jamais attaqué le statut des cheminots. On a simplement dit que les nouveaux entrants à la SNCF ne seront plus au statut.
C'est simplement le statut des cheminots.
Non, c'est simplement un système d'équité. Pardon. Si les cheminots sont au statut alors que les acteurs des autres entreprises n'ont pas de statut, ça met les cheminots en situation de dumping social vis-à-vis des autres. Donc on ne peut pas, pour le bien des cheminots, pour leur capacité à pouvoir demain être aussi efficace, être aussi compétitif que les autres, les avoir encore au statut. Donc simplement, c'est une évolution, mais comme on le voit dans d'autres systèmes. Après, ce qui est important, c'est pas tellement le statut, c'est les avantages, c'est les éléments qui sont liés au statut. Et là-dessus, on a été très clair sur le fait qu'il y aura des garanties qui seront données.
Le fameux sac à dos social. Hein.
Le sac à dos social, effectivement. Tout ce qui concerne la rémunération, la retraite, l'emploi, le logement, la santé, tous ces éléments-là, les facilités de circulation, tous ces éléments-là, on va dans la loi, mais des éléments qui permettront de sécuriser les cheminots.
Monsieur Adam, qu'est-ce que vous attendez ? On va s'arrêter là, Annabelle Grelier, je pense, dans quelques secondes. Juste un petit mot sur ce que vous attendez, vous, du président de la République cette semaine, qui va faire deux interventions à la télévision jeudi et dimanche, sur le front social en général.
Je pense qu'il faut simplement qu'il explique la philosophie générale du projet de loi ferroviaire, qu'il remette aussi en perspective, comme nous le faisons, nous, gouvernement et majorité, sur les avantages que ça a, la réforme du ferroviaire et l'ouverture à la concurrence. C'est plus de trajets, plus de trains, plus de possibilités, plus de services et des prix qui seront moins chers pour tout le monde.
C'est quoi la philosophie générale alors ? Je veux dire, simplement, en termes philosophiques.
La philosophie générale, c'est de mettre en place une concertation avec les partenaires sociaux qui puissent avancer, qu'on puisse enfin arrêter cette grève qui empêche les 4,5 millions de passagers quotidiens de pouvoir aller au travail, aller voir sa famille le week-end ou partir en vacances, et qu'on puisse vraiment réfléchir à la SNCF du 21e siècle et qui puisse être adapté à un monde ouvert à la concurrence.
Merci beaucoup. Merci Damien Adam d'avoir été en ligne avec nous. Merci aussi à Annabelle Grelier, donc en direct de l'Assemblée nationale. Un temps généralement perturbé encore aujourd'hui, des températures de 11 à 18 degrés. Édition réalisée avec Yacine Bouzard, et le prochain journal est à 18h avec Aurélie Kiffer.